They don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天，原本居住在祁连县偏远牧区的牧民达米加，正忙
着切丁基巴特的。
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50. Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. Bonjour Marc Semo. Tout va bien pour cette dernière, Marc ?
Tout va bien.
Dernière de la saison, on se retrouvera bien sûr l'année prochaine. Voilà. On va s'intéresser pour cette dernière à l'après-Brexit, un après-Brexit qui se joue beaucoup du côté de Berlin. En Allemagne, nombreuses sont les voix qui s'élèvent pour pointer du doigt la responsabilité d'Angela Merkel dans le Brexit. Il y a bien sûr celle venue des populistes d'extrême droite de l'AfD, Alternative pour l'Allemagne, dont son vice-président a déclaré suite au Brexit, je cite, « Je crois que Madame Merkel, avec sa politique d'ouverture des frontières, a poussé les Britanniques hors de l'Union européenne. » Mais il y a également des voix réputé plus nuancé, à l'instar du quotidien Die Welt 2, qui expliquait cette semaine dans ses colonnes que les Britanniques avaient sanctionné les cavaliers seuls de la chancelière. Le désastre européen du Royaume-Uni remet au centre la femme adulée par les médias et les élites que beaucoup considéraient comme la chancelière officieuse de l'Europe. En faisant cavalier seul, en ouvrant les frontières et en négociant un accord avec le président autocrate turc, Merkel a montré aux citoyens ce qu'elle pense de l'Union européenne et de ses institutions, en l'occurrence très très peu de choses. Au fond, le 23 juin, lisait-on dans les colonnes du quotidien libéral conservateur, les électeurs britanniques ont aussi dit non à Angela. On va s'interroger sur, sinon la responsabilité de l'Allemagne dans le Brexit, mais au moins nous allons nous demander si finalement la chancelière a réellement œuvré pour l'unité de l'Europe et nous poser la question de savoir si elle est encore en capacité, voire même disposée, à participer à la relance du projet européen. Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité deux personnes. D'abord, Hélène Miard de la Croix, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, germaniste, professeure à l'Université Paris 4 Sorbonne. À vos côtés, Bastien Nivet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vous professeur associé au pôle universitaire Léonard de Vinci et chercheur à l'IRIS. Avant de se retrouver autour de ces questions, l'Allemagne peut-elle garantir l'unité européenne ? Place à notre retour d'eux en association avec le prix Albert Londres, la journaliste qu'on reçoit ce matin et revient de Tunisie, c'est Léna Mogé. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste pour la revue 21 et on vous reçoit donc pour ce reportage. Entendez-vous gémir la Tunisie qui est parue justement dans la revue 21 qui est sortie hier ou avant-hier ?
Avant-hier.
Vous êtes rendu dans plusieurs villes du pays. Vous avez notamment rencontré Radia Nasraoui, qui est avocate, qui est une militante des droits de l'homme, opposante historique du régime de Ben Ali. On en parlera dans quelques instants. Je rappelle quand même quelques éléments quand même de contexte pour les éditeurs. Il y a quelques jours, la Tunisie a annoncé la prolongation de l'état d'urgence en vigueur dans tout le pays. On s'en souvient depuis cet attentat suicide qui avait visé un bus de la carte présidentielle à Tunis. C'était en novembre dernier. La sécurité reste la priorité pour cette jeune démocratie tunisienne qui s'est dotée, rappelons-le, en novembre 2014, même au début de l'année plutôt 2014, d'une toute nouvelle constitution. Vous avez eu donc, vous, l'occasion, Léna Mogé, de rencontrer Radia Nasraoui. Elle lutte depuis les années 70 comme avocate, militante des droits de l'homme. Elle avait commencé déjà sous le régime de Bourguiba, qui interdisait à l'époque les manifestations d'étudiants et de travailleurs. Et puis elle a continué sous Ben Ali, elle continue aujourd'hui. C'est une femme qui jouit d'une aura extraordinaire, même si quand même, visiblement, elle a aussi des détracteurs. Racontez-nous peut-être votre première rencontre. Quel effet vous fait cette femme quand elle vous récupère avec sa voiture ? Et pourquoi vous avez choisi cette figure en particulier pour comprendre finalement ce qu'est devenue cette Tunisie post-Ben Ali ?
Alors moi, j'avais envie de rencontrer Radia Nasraoui parce que j'avais l'impression que la Tunisie d'aujourd'hui, les repères étaient brouillés. Je ne savais pas trop comment la raconter. Je me suis dit, quelqu'un qui, pendant 40 ans, s'est battu contre un régime, contre une dictature, qu'est-ce qu'elle en dit aujourd'hui et quelle est sa voix sur la Tunisie post-révolutionnaire. Donc, je connaissais plusieurs personnes qui vivaient en Tunisie, soit des journalistes, soit des spécialistes qui la connaissaient assez bien. Mais c'est une femme qui est très occupée, très débordée, parce qu'en fait, elle passe son temps à parcourir la Tunisie de la mer au désert, de Nabeul jusqu'à Kasserine et jusqu'à la frontière libyenne. Là-bas, on l'appelle l'avocate des pauvres, parce qu'en fait, elle prend un peu les dossiers de tous les gens qui n'arrivent pas à trouver d'avocat. Et au début, je me suis dit, mais elle a été nominée pour le prix Nobel de la paix, etc. Elle se prend un peu pour mère Tunisie. J'ai l'impression que c'était une femme complètement inaccessible, assise sur ses lauriers, absolument injoignable, parce que quand je téléphonais, elle répondait pas au téléphone. Et le jour où je suis arrivée à Tunis, elle est venue me chercher dans sa Kia orange. Elle a débarqué en bas de mon hôtel. Et là, j'ai découvert une petite dame avec 1m56, avec les cheveux tout bouclés, deux téléphones portables qui sonnent en permanence. Et donc, je vous décris une scène qui la raconte assez bien. C'est qu'on est en route, on va voir un client à elle en prison. Donc là, elle a un téléphone qui sonne. Donc, elle essaye de répondre. De l'autre main, elle ouvre une canette de Schweppes, donc tout en conduisant. Hein. Et là, elle se dit qu'il faut absolument qu'elle note que la personne lui dit au téléphone. Et donc, elle se retourne pour prendre un carnet et un stylo dans son sac. Et son quotidien, c'est ça, tous les jours, de 6h du matin jusqu'à minuit.
D'ailleurs, elle est toujours accompagnée d'un policier qui est chargé de la protéger, ce qui est d'ailleurs un petit peu cocasse quand on sait évidemment combien elle se bat contre les violences policières. Mais il a l'air complètement épuisé de la suivre, hein.
Ah bah, le garde-corps, c'est assez drôle, parce que bon, en fait, ça tourne, c'est vraiment les gardes rapprochés. Mais il a aussi protégé le président Essebsi, qui a 90 ans. Et il me disait, mais quand je protège le président, c'est fantastique, parce qu'à midi, il rentre chez lui. Alors qu'en fait, avec Radia, je me retrouve à faire 800 km par jour. C'est absolument ingérable. Et en gros, il voulait changer de personnalité à protéger. Alors le comble, comme vous l'avez dit, c'est qu'elle a quand même passé sa vie à dénoncer la police. Et depuis la dictature, elle a été menacée par les islamistes. Et donc elle dit, j'ai toujours eu les policiers derrière moi, maintenant ils sont à côté.
Alors quand vous la rencontrez, elle est venue voir la famille d'un homme qu'elle va défendre, qui s'appelle Ryan, qui est un jeune homme qui subit visiblement les menaces récurrentes de l'homme fort, disons, du village, de la région. Il a fait l'objet de pression, de mauvais traitements de la part de la police. Vous nous racontez un peu son histoire, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il est libre, mais il a quand même été condamné.
Il a été condamné. Ouais. Alors, donc en fait, c'est dans une ville qui est l'ancienne capitale du textile qui s'appelle Ksar El Al. Ouais. Et c'est un garçon qui, en fait, a pour seule richesse trois machines dans son garage sur lesquelles il tisse du fil avec son père. Et il y a en fait deux hommes forts dans la ville. Et l'un, le plus fort, lui a demandé de faire un faux témoignage contre l'autre, pour en gros gagner des parts de marché sur son concurrent. Lui a refusé, il a été menacé. Et là, en fait, toute son affaire raconte à quel point les magistrats et les policiers sont corrompus. C'est que c'est lui, alors qu'il a simplement refusé de faire un faux témoignage, qui s'est retrouvé emmené au poste de police, tabassé, et qui a été condamné. En gros, on l'a accusé, lui, d'avoir fait une fausse déclaration.
Vous parlez de corruption. Ce que vous dit Radia Nasraoui, c'est qu'à l'époque de Ben Ali, finalement, cette corruption, elle existait évidemment, mais elle était encadrée d'une certaine manière. Aujourd'hui, elle s'est considérablement développée. C'est le cas, par exemple, pour cette jeune fille, Marwa, qui a 20 ans, qui a été victime de viol. Ses violeurs ont voulu acheter son silence. Elle a refusé. Elle s'est plainte auprès de la police. Les policiers lui ont dit qu'elle était consentante. Et aujourd'hui, ces hommes qui l'ont violée sont absolument libres. En gros, si on a de l'argent, si on peut acheter, on peut acheter sa liberté malgré les crimes qu'on commet. Et la corruption, finalement, est devenue l'un des grands combats de Léna Mogé, de Radia Nasraoui.
En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne se cachent même plus. C'est-à-dire que sous Ben Ali, effectivement, la corruption, elle était d'une certaine manière institutionnalisée. En fait, il y avait le clan de Ben Ali et des Trabelsi qui tenaient le pouvoir, qui ont pris des pas dans toutes les entreprises au moment des privatisations dans les années 90-2000. Aujourd'hui, la fortune de Ben Ali, qui est réfugié en Arabie Saoudite, elle est de 5 milliards. Et aujourd'hui, en gros, la tête est tombée, mais les institutions et les gens sont restés. Et donc, en fait, cette corruption qui était encadrée se retrouve à tous les niveaux. Tout le monde essaye de piocher dans les caisses de l'État. Et donc, ça va du cas d'un policier qui veut tirer un bakchich au bord de la route, de ces jeunes qui ont violé une jeune fille, qui, eux, sont les enfants des propriétaires terriens. Elle est juste la fille d'un ouvrier agricole et donc elle n'est rien. Et ce qui était très fort dans ce que disait Radia Nasraoui, c'est que, du coup, eux s'en vantent. C'est-à-dire qu'ils ont dit, on a acheté tout le monde avec notre argent. D'abord, on vous a proposé de l'argent à vous, à la famille, pour ne pas porter plainte. Vous avez porté plainte. Et ben voilà, on est libre, on est dehors.
Alors, il faut rappeler quand même que la torture, qui est un peu le combat historique de Radia Nasraoui, elle est toujours très répandue en Tunisie. Je crois qu'il y a un rapport de son association, justement, qui évoque 250 plaintes, je crois, pour l'année 2015. Et ce qui est assez terrible, c'est que la torture, elle est justifiée par le régime, par la lutte antiterroriste, et que d'une certaine manière, l'opinion soutient cette vision.
Alors en fait, elle a vraiment toujours sa spécialité, si on peut dire, c'est effectivement le combat contre la torture. Et sous Ben Ali, la torture était systématique. Quasiment à chaque fois qu'on était arrêté, même pour un simple contrôle de police, on allait au commissariat, on était tabassé, on arrivait en prison, on se faisait tabasser. Et il y avait des techniques très... Donc elle raconte qu'elle a vu des choses absolument insensées, un œil qui tombe de son orbite, enfin, tout ce qu'on peut imaginer de pire en termes de torture. Quand il y a eu la révolution en 2011, il y a un moment où en fait les policiers ont dû se cacher, se terrer. Il y avait vraiment des révoltes populaires et les gens qui avaient subi en fait cet état policier au quotidien se retournaient contre les policiers. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que comme on est en état d'urgence, que la question terroriste est un véritable enjeu pour la Tunisie aujourd'hui. La menace est très forte. On est à la frontière de la Libye qui est en plein chaos. La Tunisie vient de construire un mur de sable. L'opinion publique est effectivement en train de se retourner et c'est le vieux combat, sécurité contre liberté. Et dit, dans les cas de terrorisme, effectivement, c'est normal de torturer les gens. Et donc, ce qui est très difficile pour les militants des droits de l'homme qui se sont toujours battus comme Radia Nasraoui, dit aujourd'hui, notre voix, en fait, elle n'est pas tellement entendue quand il s'agit de terreur ou de terrorisme. Parce qu'on dit, oui, mais ça, c'est une exception. Et son garde-corps lui-même, qui a été formé à l'antiterrorisme et tout, dit, oui, mais c'est absolument normal dans les cas terroristes de pouvoir les torturer. Oui, sinon,
la sécurité
on a
tout emporté sur son passage. D'ailleurs, vous racontez une histoire absolument terrible. Vous dites que la police fait régulièrement des descentes dans les quartiers pour vérifier les identités, pour, si possible, aller récupérer un petit bakchiche par-ci, par-là. Et récemment, il y a un homme qui s'est opposé à des policiers qui étaient venus pour lui fermer son stand de fruits. Alors évidemment, ça fait écho dans nos têtes, exactement comme Ahmed Bouazizi, dont l'immolation, on s'en souvient, avait cristallisé, avait déclenché la révolution. Cet homme-là, il s'appelle Marwan Jandoubi, il a protesté, il s'est aspergé d'essence. Sa famille dit qu'il n'avait pas l'intention de se suicider, mais de fait, en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que la police a réagi en lui envoyant des charges électriques. Il s'est enflammé, il s'est transformé en véritable torche humaine. Et vous rencontrez la famille qui essaye de mobiliser un peu l'opinion, les médias sur cette affaire, mais personne n'a relayé cette information. On sait dire justement comment cette sécurité a tout emporté sur son passage. Tout le monde est obnubilé par cette question de la sécurité et de l'état d'urgence.
Ouais, c'était une histoire très touchante, en fait, parce que la famille disait, mais nous, on a envoyé des mails, des fax à 70 médias tunisiens. Mais aujourd'hui, on parle que de l'état d'urgence et on parle notamment, en fait, moi, quand je suis arrivée en Tunisie, donc c'était en mars, quelques jours après, il y a eu l'attentat de Ben Garden, où, en fait, 50 djihadistes venus de Libye ont essayé de prendre la petite ville de Ben Garden, qui est une ville qui traditionnellement en fait fait beaucoup de contrebande parce qu'on est vraiment à la frontière avec la Libye. C'est une ville de 60 000 habitants.
Qui est une ville réputée hostile au pouvoir.
Qui est une ville réputée et surtout qui est une ville qui est très importante aussi, ouais. Qui est une ville symbole dans l'imaginaire djihadiste. Parce qu'au moment de la guerre en Irak, on a dit il existe une ville en Tunisie, elle s'appelle Ben Garden. Mmh. Et c'était déjà un appel en fait à l'époque d'Al-Qaïda de prendre. Ben Garden en Tunisie, oui, ailleurs, comme espèce d'avant-poste du djihad en Afrique du Nord.
Et par ailleurs, quand ils ont mené cette opération, visiblement, ils haranguaient les gens, ils appelaient la population à soulever.
Voilà, en fait, les djihadistes sont arrivés à l'aube dans la ville. C'était le 7 mars, ou le 12 le 7 mars, je crois. Et ils sont arrivés avec des mégaphones. Donc, ils ont pris les zones cibles de la ville, donc le poste de police, le poste de la garde républicaine et le poste des militaires, avec des cellules dormantes dans la ville qui les ont aidés en fait à prendre ces casernes. Et dans les mégaphones, en fait, ils appelaient la population à les rejoindre, à se retourner contre leur propre État. Et en fait, la population n'a pas du tout suivi. Ouais. Il y a eu en fait beaucoup plus, trois fois plus de morts parmi les djihadistes que parmi les civils. Mais ça a vraiment été un tournant. Et en fait, les chercheurs spécialistes de la Tunisie disent que cette attaque-là récemment de Ben Garden montre à quel point la Tunisie aujourd'hui risque la situation insurrectionnelle.
Ouais, c'est devenu une nouvelle cible pour installer peut-être un nouveau foyer islamiste d'envergure. On sait qui ils étaient. Est-ce que c'était des locaux?
Alors, il y avait beaucoup de jeunes de Ben Garden. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, je pense, c'est la cohabitation entre les familles de victimes et les familles de ces jeunes qui ont voulu reprendre leur ville.
Et la police, rappelons-le, donc, a finalement, parvenu à neutraliser ce groupe, et d'ailleurs effectivement avec le concours d'une partie de la population. Radia Nasraoui, revenons à elle, vous dit à propos justement de ces islamistes qu'à l'époque de Ben Ali, elle s'efforçait de réduire leur influence, qu'elle était l'une des rares à les défendre. Même leurs avocats, vous dit-elle, n'avaient pas le courage de les défendre. Moi, je n'avais pas eu peur, je les ai défendus, les plaidoiries ne servaient à rien, ils étaient condamnés, mais au moins, les gens savaient. Et maintenant qu'ils ont le pouvoir, je suis menacé de mort.
Alors ça, c'est toute l'histoire, en fait,
de la Tunisie.
De la Tunisie, et puis de la dictature de Ben Ali, qui, pour rester forte, étouffait les forces d'opposition. Donc, en fait, sous Ben Ali, les gens en prison, c'était en majorité les islamistes, et ensuite la gauche, dont fait partie Radia Nasraoui, parce que, je veux se rappeler que son mari, c'est aussi une figure politique en Tunisie, hein, c'est vraiment un des leaders de la gauche. Et quand Ben Ali est tombé, ces forces d'opposition se sont très vite reconstituées. Et notamment les islamistes qui après se sont le parti d'Ennahda s'est reconstitué très très vite avec des cellules un peu partout dans le pays. Et donc l'opposition qu'il y avait à l'époque entre la gauche et les islamistes a ressurgi au moment où la jeune démocratie tunisienne a commencé à se construire. Et donc les gens de la gauche qui disent nous, on défend des valeurs libérales, etc. Et donc qui ont commencé à attaquer les islamistes, ont commencé à être menacés. Et il y a eu un avocat très connu, député figure de la gauche, qui s'appelait Chokri Belaïd, qui a été assassiné. Et en fait, c'est à partir de là que Radia Nasraoui et plein d'autres avocats ont eu une garde rapprochée.
Le mois dernier, Léna Mogé, le parti Ennahda, dont le groupe parlementaire, rappelons-le, est le plus important de l'Assemblée, a tenu un congrès. Il en est sorti une rupture doctrinale très importante, puisque son chef, Rached Ranouchi, a décidé que l'islam politique avait perdu sa justification et que Ennahda se positionnait désormais comme un parti civil. Donc, il ne se revendique plus de l'islam politique. Son chef, Rached Ranouchi, avait d'ailleurs déclaré au Monde « Il faut bien spécifier la différence entre l'activité politique et l'activité religieuse. Le lieu de l'activité politique n'est pas la mosquée. Nous voulons que la religion soit un élément de rassemblement des Tunisiens et non de division. Nous sommes des musulmans démocrates qui ne se réclament plus de l'islam politique. » Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette rupture doctrinale?
Alors, c'est une question intéressante et je pense que la vraie question, c'est celle de la place du discours chez les islamistes. Et beaucoup de gens en Tunisie disent très bien, c'est une déclaration. De fait, Ennahda a été au pouvoir. C'était le premier parti à être élu après la Révolution. Et au moment où ils étaient au pouvoir, ils ont quand même organisé un référendum pour instaurer la charia. Donc qu'il y ait une évolution dans le discours, c'est une chose. Après, ce que ça implique concrètement, ça fait débat dans le pays et dans la société civile qui est aujourd'hui très, très, encore très forte. Il faut le rappeler en Tunisie, hein, où il y a quand même une vraie liberté d'expression, même les gens s'insultent parfois dans les médias.
Merci beaucoup, Léna Mogé, d'être passée dans nos studios. Je rappelle dans votre reportage, Entendez-vous gémir la Tunisie dans la revue 21 qui vient de paraître, qu'on peut s'acheter dans toutes les bonnes crèmeries.
Exactement,
merci
toutes
beaucoup.
Les bonnes librairies.
Merci beaucoup, Léna Mogé. مسكينة وفرقيطة فقري وصوتي في كل مكان ما يستعرف بخريطة في بلد الراضي شكون الحق على حلال على حالي نحمد ربي ما نزلنا في بوبل الكلكم نفس السولة يا مصخين يا حوتل طردكم من دماغي خاطركم زوبل عدد اعدائك فر علي ما نعرف من نبدأ جينا في بلاد القبانية سقط متلبدة بخلف اخواتي اللي عزوا عليا من ربي الكبدة ظلمت نتحمل الاذية هاي روح الزبدة برشا من الناس سألوني علاش في فنك خبيح. Ce rappeur qu'on entend, c'est Clé BBJ, qui est un rappeur tunisien et qui a fait les frais, comme beaucoup de rappeurs, de cette loi dite 52. Il faut rappeler qu'en Tunisie, un tiers des 25 000 prisonniers qui sont aujourd'hui incarcérés sont incarcérés via cette loi 52, qui est une loi qui vous condamne pour détention ou consommation de stupéfiants. C'est d'une certaine manière un outil pour contrôler la jeunesse et ce rappeur, en l'occurrence, a fait les frais de cette fameuse loi 52. On va tourner notre page tunisienne pour se tourner du côté de l'Europe et en particulier de Berlin.
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
Une semaine après le référendum sur le Brexit, l'Allemagne peut-elle garantir l'unité européenne? C'est notre sujet ce matin.
Nous nous assurerons que les négociations ne soient pas faites à la carte. Il doit y avoir et il y aura une distinction claire entre un pays qui veut faire partie de la famille de l'Union européenne et un qui ne le veut pas. Celui qui sort de la famille ne peut pas s'attendre à ce que tous ses devoirs disparaissent et que ses privilèges soient maintenus.
Voilà la chancelière allemande devant le Bundestag, prévenant que la Grande-Bretagne ne doit pas s'attendre à ce que ses privilèges soient maintenus, mais elle a aussi affirmé que Londres avait besoin de prendre son temps. On l'a sentie relativement prudente, en tout cas moins empressée que d'autres. Jean-Claude Juncker, François Hollande, Matteo Renzi, qui veulent que le processus soit enclenché le plus vite possible, comme si finalement elle n'était pas si impatiente à l'idée de relancer l'Europe et d'aller vers plus d'intégration. Comment comprendre cet attentisme? La voix la plus puissante de l'Union ne serait-elle pas disposée à insuffler une nouvelle dynamique à l'Europe? Voilà les questions qu'on va se poser avec Hélène Miard de la Croix que j'ai présentée tout à l'heure, ainsi que Bastien Nivet et bien sûr Marc Sémo, notre partenaire au Monde. On va commencer avec vous, comme on fait chaque semaine, Marc, dans Culture Monde le vendredi. L'année dernière, Marc Sémo, et en particulier quand on a recommencé cette nouvelle saison au mois de septembre, on avait beaucoup salué cette chancelière allemande qui, devant les atermoiements des responsables de l'Union européenne, avait pris cette décision d'ouvrir les frontières de son pays pour accueillir ses réfugiés. À l'époque, elle avait véritablement concerté ses partenaires européens qui, eux, c'est vrai, n'étaient pas disposés à les accueillir du tout. Par ailleurs, il faut aussi préciser que l'Allemagne avait aussi un intérêt, d'une certaine manière, à les accueillir. On a beaucoup parlé de cette crise démographique à laquelle elle devait faire face. Mais quoi qu'il en soit, tout le monde avait salué cette décision, son leadership, morale, politique. Aujourd'hui, on voit que les populismes ont progressé un peu partout en Europe. On a vu que du côté de la Grande-Bretagne, cette question de l'immigration, elle avait été bien sûr instrumentalisé par les partisans du Brexit, mais en tout cas, ça avait été le moteur de ce fameux Brexit. On voit que l'avenir de l'Europe est incertain et on peut se demander si finalement Merkel n'a pas d'abord défendu les intérêts de l'Allemagne avant ceux de l'Europe et si elle sera en capacité de garantir son unité. En tout cas, il y a un vrai décalage qui est assez étonnant entre ce qu'on disait d'Angela Merkel au moment de cette crise des migrants il y a à peu près un an, et finalement, aujourd'hui, ou d'une certaine manière, alors il va falloir mesurer les choses, mais on voit quelque part une sorte de responsabilité d'Angela Merkel dans le Brexit. Marc,
Je ne sais pas si c'est une responsabilité, mais indirecte, oui. Mais
indirect, bien sûr.
À l'époque des réfugiés, elle avait eu ce mot qui est devenu historique, qui est « Wirtschaftendas », nous y arriverons. Et c'était la chancelière qui, contrairement à ce qu'on pense, est une femme de conviction, et pas simplement une pragmatique prudente. Elle a grandi derrière le rideau de fer et pour elle, il n'était pas question de refaire des barbelés en Europe. En même temps, on l'accuse d'être une Européenne tiède, ce qui est faux. Elle a grandi à Berlin-Est et au contraire, pour elle, l'Europe, c'était un rêve. Ce qui parfois est encore plus fort que pour quelqu'un qui a grandi dans le franco-allemand, comme beaucoup d'autres. Alors, elle était dans cette situation face aux réfugiés. Elle a fait ce choix éthique qui a été salué, à raison. Et effectivement, elle a précipité une crise de l'Union. C'est vrai. Il y a eu... Ça a amplifié le mouvement. Et on a vu, par exemple, des retournements. C'est extrêmement frappant de voir ce qui s'est passé en Autriche. L'Autriche est un pays qui avait accueilli en proportion encore plus de réfugiés que l'Allemagne. Et avec enthousiasme. Et quelques mois plus tard, on a vu la montée du FPE. Et aux élections, le candidat de l'extrême droite n'a pas été élu, mais à 31 000 voix, juste de différence. Et évidemment, la question des réfugiés a pesé sur le Brexit. Alors, en réalité... Le sentiment anti-immigration en Grande-Bretagne, c'était plus les Polonais, comme le plombier polonais en France en 2005, hein, qui avait été d'ailleurs accueilli parmi les premiers. La Grande-Bretagne, à différence de la France, n'avait pas mis de clause de précaution, et donc les Polonais, les Roumains, etc., étaient venus très vite. Mais c'était le plombier polonais, donc les Polonais. Mais en même temps, ces images qu'ont vues les Britanniques ont cristallisé ces peurs fantasmatiques. En même temps qu'on est, comme en France en 2005, revenu à la charge sur l'idée que... la Turquie, elle est rentrée dans l'Union européenne. Donc aujourd'hui, il y a une terrible responsabilité de la part de Merkel. Et c'est quelque part un personnage tragique. Elle a dû faire cet accord sur les migrants avec la Turquie, alors qu'il est évident, elle le sait mieux que quiconque, la Turquie ne respecte de moins en moins les critères de l'Union. Et maintenant, s'il s'agit de qu'est-ce qu'on va faire avec le départ de la Grande-Bretagne. Mais pour revenir sur le début, je pense que dans sa tête, c'est « Wirtschaftendas, nous y arriverons », y compris par rapport à la crise de l'Union.
Hélène Miard de la Croix. Le 23 juin, les électeurs britanniques ont aussi dit non à Merkel. Voilà ce qu'on lisait dans Die Welt. Quel lien est-ce que vous établissez entre la politique du gouvernement allemand lors de la crise des réfugiés et le Brexit? Est-ce que les décisions prises de façon unilatérale par Merkel sur la crise des réfugiés à l'été 2015, et Marc Seymour a raison de rappeler que d'une certaine manière, elle a eu raison de le faire, mais est-ce que ça n'a pas été décisif dans la conviction des Britanniques que leur intérêt était de sortir de l'Union?
Ben, je crois que Marc Seymour a tout à fait souligné ce qui est important, c'est-à-dire que dans la décision de Mme Merkel, la conviction et les principes l'ont emporté, de la même façon que pour les autres domaines dans lesquels elle agit en Europe, ce sont toujours les convictions et les principes qui peuvent être l'économie de marché, la compétitivité, les intérêts allemands qui décident. Je pense que dans le terme de responsabilité, là, en plus en Allemagne, le terme de responsabilité, c'est un terme qu'on aime bien parce qu'on a plusieurs mots pour ça. Il nous interroge, c'est-à-dire qu'il est légitime de poser la question dans la mesure où on a une séquence, mais je pense qu'il serait trop audacieux de confondre des effets avec des discours de justification a posteriori et les causes. Je crois que Marc Seymour a tout à fait raison, les images que l'on a vues, des migrants, ces familles à pied qui traversaient, enfin c'était absolument tragique, ont en effet frappé les esprits. Mais il a tout à fait raison, les étrangers qu'on voit en Grande-Bretagne, ce ne sont pas de ces migrants-là, puisqu'ils sont bloqués de toute façon, soit en Allemagne, soit à Calais. Mmh. Et puis, parce que, en fait, le rejet de l'étranger, la xénophobie en Europe, qui a été particulièrement porteuse dans le Brexit, et qui a été potentialisée très certainement par ces images, elle ne date pas de septembre 2015 et du Verschaffendas. Mmh. Nigel Farage, il était élu bien avant, Le Pen est en France depuis un bon moment, etc. Je pense que ce qui a été là important, c'était qu'on a trouvé un support pour expliquer et pour mettre en sens ce qui fait le rejet de l'étranger aujourd'hui, c'est que les gens ne comprennent pas ce qui leur arrive. Il y a une perte de visibilité, de compréhension du monde, et l'étranger, on le sait depuis la nuit des temps, c'est une simplification de la complexité, c'est lui qui vient nous prendre, et donc ce repli sur ce qui serait l'identité propre fonctionne très bien. Mais je pense que là, c'est un petit peu trop rapide de prendre cette responsabilité allemande au sens d'une culpabilité.
C'est pour ça que nous avons titré, parce que je présente les choses de façon un peu provocatrice, mais on a titré « L'Allemagne peut-elle garantir l'unité européenne en se projetant vers l'avenir ?» Donc on a parfaitement conscience de tout ça. Mais votre opinion, Bastien Nivet, sur cette question?
De la même façon, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, je crois que pointer de façon très, très directe une responsabilité de l'Allemagne ou d'Angela Merkel, c'est aussi une forme d'explication et de mise en sens des difficultés de l'Union européenne au sens large et pas seulement de l'Allemagne. Si l'on regarde les différents mouvements qui ont été évoqués par Marc Seymour, entre d'abord une décision un petit peu audacieuse, d'ouverture, de dire oui, on va accueillir les réfugiés, c'est un devoir moral, juridique et légal, ne l'oublions pas aussi quand même, on parle de réfugiés. Il y avait l'été dernier une certaine pression morale, juridique, politique en faveur d'une solution européenne, d'une politique européenne d'accueil des réfugiés sous des angles discours d'impératif moral, juridique, etc.
Oui, puis l'opinion allait dans ce sens-là, elle s'est retournée très vite.
À l'inverse, l'autre initiative que l'on reproche de façon tout aussi forte en Angela Merkel, l'accord avec la Turquie illustre aussi quelque part une autre tendance forte dans l'Union européenne de repli, de fermeture, de crainte et puis d'externalisation de la question migratoire et de la question des réfugiés.
Oui, on a vu l'Union européenne. Cette affaire, elle l'a fait seule. Elle est partie seule négocier.
Alors,
c'est aussi en
cela que finalement les accusations à l'encontre d'Angela Merkel sont une explication et une mise en sens. Je reprends votre expression des difficultés de l'Union européenne. Il n'y avait aucune politique européenne lorsque Angela Merkel a décidé, a dit qu'on pouvait accueillir ces réfugiés. Il n'y avait pas de politique européenne. Or, par définition, la gestion d'un flux de réfugiés important qui est lié à une crise, et à un contexte stratégique, un contexte de guerre dans lequel les pays européens occidentaux ont des responsabilités importantes, c'était un impératif européen. Il n'y avait pas de politique européenne à ce moment-là. Donc, quelque part, Angela Merkel est venue occuper un un espace politique laissé vacant par ses partenaires européens. Et quelque part, ce balancier entre l'ouverture à l'été 2015, puis la fermeture et l'externalisation avec la Turquie, illustre toutes les contradictions de l'Union européenne sur ces questions de réfugiés. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas de socle commun. Et donc, ce que l'on reproche à Angela Merkel, finalement, indirectement, on le reproche à l'Union européenne. C'est l'absence de convergence et de vraie, véritable politique européenne sur ces questions-là, que l'on reproche indirectement à l'Allemagne, parce que, je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter à nombreuses reprises, elle incarne, peut-être parfois malgré elle, une forme de leadership dans l'Union européenne d'aujourd'hui.
Vous avez absolument raison. Et puis par ailleurs, on pourrait aussi rappeler qu'il y avait eu cet accord européen en septembre 2015 qui visait à relocaliser 160 000 réfugiés et que finalement cet accord n'a jamais été appliqué. Donc d'une certaine manière, c'est une responsabilité collective. Vous avez absolument raison. Marc Sémon.
Oui, justement, parce qu'on en revient à ce fait qu'en dehors même de la politique de migration, il n'y a pas de politique européenne. Et aujourd'hui, sur la plupart des sujets, et aujourd'hui, effectivement, il y a ce leadership par défaut de l'Allemagne que Angela Merkel assume. Hein, il y avait cette phrase absolument terrible, il y a quelques années, de l'ancien ministre polonais des Affaires étrangères qui disait « J'ai plus peur de l'impuissance allemande que de la puissance allemande ». Et aujourd'hui, voilà, l'Allemagne se trouve à devoir gérer ça. Et c'est ce qu'il est quand même significatif que dans cette crise de l'après-Brexit, la première grande réunion, celle des trois, c'est-à-dire Angela Merkel, François Hollande et Matteo Renzi, pour montrer que bon, ce n'était pas juste dans un couple franco-allemand en crise, bon, c'est fait à Berlin. Mais en même temps, qui d'autre? Matteo Renzi risque de sauter au référendum à l'automne. Hollande est quand même, François Hollande, le président le plus impopulaire de la Ve République. Donc malgré les problèmes d'Angela Merkel, c'est quand même elle qui tient la baraque. Et alors, dans ce sens-là, effectivement, il y a une responsabilité, parce qu'il n'y a qu'elle. Et c'est peut-être aujourd'hui la grande tragédie de l'Europe.
Hélène Mire de la Croix.
Oui, là où c'est un peu compliqué, c'est que, à la fois, en effet, il n'y a qu'elle, mais on a tendance de l'extérieur à enjoliver la position de Madame Merkel dans son propre pays et l'image globalement positive dont elle a joui jusqu'à présent. Ça fait 10 ans qu'elle est au pouvoir, on a quand même l'impression que cela s'essouffle. Il y a des élections générales en septembre 2017. Il n'est pas du tout certain que ce soit elle qui continue à mener l'affaire. Et il ne faut pas oublier que l'Allemagne a depuis donc plusieurs années, et c'est déjà à deux reprises, un gouvernement de grande coalition. Donc quand on dit, mais ça c'est parce qu'on veut simplifier, on va vite, on dit l'Allemagne, Merkel. L'Allemagne, c'est pas Merkel. L'Allemagne, il y a un gouvernement de grande coalition à l'intérieur duquel il y a donc l'autre grand parti qui est en perte de vitesse, mais enfin qui est quand même le grand parti, le SPD, dont est auquel appartient le ministre des Affaires étrangères, Sigmar Gabriel, qui quand même a pris l'initiative avant même cette réunion en début de semaine à Berlin avec Hollande, Renzi et Merkel, de se rencontrer en tête-à-tête avec Jean-Marc Ayrault, de discuter ensemble un papier qu'ils avaient préparé déjà depuis plusieurs semaines parce que eux avaient envisagé que le Brexit pourrait avoir lieu, et ont ensuite rencontré, alors ça Merkel a trouvé que c'était pas raisonnable, mais ont rencontré les quatre autres ministres des Affaires étrangères des pays membres fondateurs, et ont fait des propositions qui sont beaucoup plus allantes que ce qu'a dit Madame Merkel devant le Bundestag.
Ah oui, ils sont sur la ligne de Bruxelles, pour
mais
le coup,
complètement.
Sigmar Gabriel est exactement sur la ligne de Bruxelles. Il faut aller vite.
Exactement. Et Sigmar Gabriel et Steinmeier disent non seulement il faut aller vite, mais la chancelière est naïve. Le discours au Bundestag dont vous avez donné des extraits, où elle est ferme en disant on ne peut pas rester dedans en étant dehors, enfin voilà. Dans le même discours, elle a bien dit il faut quand même laisser du temps. Le chancelier Kohl s'est exprimé là en début de semaine pour dire il faut laisser du temps aux Anglais. Et du côté de l'opinion publique, ça grogne aussi un petit peu parce que cette impression d'attentisme qui colle beaucoup à l'image de Mme Merkel, là, dans une situation telle, n'est pas très appréciée.
Marc Sémon, et ensuite je vous donne la parole tout de suite.
Mais faisons un peu là-dessus l'avocat du diable. Bon, on peut se demander d'abord si l'Europe n'est pas en train de devenir, vu le poids de l'Allemagne, otage de la politique intérieure allemande. Et des règlements de compte au sein de la coalition entre un SPD en déclin qui essaie de se raccrocher à n'importe quoi pour sauver la mise. Et parce que cet attentisme prudent d'Angela Merkel, à la fois il y a beaucoup de risques au moment avec cette crise britannique, mais du Brexit, mais en même temps, c'est pas non plus totalement absurde. Parce que on voit aujourd'hui qu'en Grande-Bretagne, les effets du Brexit, on s'aperçoit qu'il y a eu des gros mensonges. Les électeurs commencent à regretter. Boris Johnson, exactement comme Fabius, a misé sur le non en politique intérieure, mais s'est aperçu que c'est une impasse politique totale au point que lui a jeté l'éponge et n'est même plus candidat pour la direction du Parti conservateur. Donc est-ce que finalement, cette idée qu'il faut gagner du temps, qu'on était avec une Grande-Bretagne qui avait un pied dedans, un pied dehors, que maintenant on va être avec une Grande-Bretagne qui a un pied dehors, un pied dedans. Est-ce que finalement, il ne faut pas jouer un peu les choses avec pragmatisme et attendre un peu que les choses, que la poussière retombe, de voir comment on peut agir à partir de décembre-janvier.
Bastien Nivet et ensuite Hélène Mire de la Croix. Bastien Nivet.
Deux petites remarques, une sur l'impact des élections nationales sur le calendrier européen et puis l'autre sur le leadership allemand dans l'Union européenne. Alors c'est vrai qu'on est dans une configuration qui est très particulière parce qu'il y a à la fois une grave crise de l'Union européenne, deux États membres, on y reviendra sûrement, desquels on attend beaucoup, peut-être trop, et qui tous les deux sont à un an d'échéance électorale nationale importante.
Oui, l'autre c'est évidemment la France.
L'autre c'est la France, effectivement. Et alors cela, ça peut avoir à la fois des conséquences tout à fait positives sur les débats européens, mais aussi profondément négatives. Ça peut avoir comme conséquence positive une mise sur l'agenda politique électoral des questions européennes, ce qui est quand même trop rare en France notamment. C'est un petit peu différent en Allemagne, mais ça peut avoir pour effet positif de créer du débat européen, d'en faire un enjeu électoral, un enjeu politique, de politiser cette question pour qu'on essaye de voir si ça peut être un vrai objet politique et démocratique. Donc ça peut avoir du positif. Le négatif, c'est que ça peut aussi donner lieu à une sorte de foire aux propositions farfelues. Ça a déjà commencé en France notamment. De candidats qui proposent à tout va, alors qui a un référendum pour sortir de l'UE, qui a un grand traité qui va enfin révolutionner toute l'Europe, etc. Ce qui, évidemment, ne sera pas du tout convaincant pour le pragmatisme que l'on attribue à Angela Merkel. Donc la seule chose dont on est sûr, c'est que finalement, ces chances électorales vont perturber un peu, vont complexifier encore le calendrier européen. Et puis, je voudrais revenir un tout petit peu sur le leadership allemand. Et effectivement, l'Allemagne se retrouve aujourd'hui dans une situation qui nous rappelle un peu les critiques et les reproches qu'on faisait à la France avant dans son rôle de l'Union européenne. C'est-à-dire que si l'Allemagne ne prend pas d'initiative, n'exerce pas un certain leadership, on l'accuse de ne pas assumer ses responsabilités, de ne pas jouer le rôle qui doit être le sien dans l'Union européenne. En revanche, si elle essaye de prendre des initiatives, d'exercer ce leadership, on l'accuse d'asseoir sa puissance, son pouvoir, etc. Et finalement, l'Allemagne se retrouve dans une position diplomatique européenne qui est assez difficile et qui rappelle certaines difficultés de la France par le passé lorsque l'Union européenne comptait une quinzaine d'États membres seulement. Si elle en fait trop, on l'accuse de dominer le reste de la classe européenne. Si elle en fait pas assez, on l'accuse de pas assumer ses responsabilités. Finalement, pour un peu être compréhensif envers la grande coalition allemande, c'est pas une situation diplomatique qui est si évidente que ça pour l'Allemagne, à mon avis.
Et l'admire de la Croix.
Alors, bon, évidemment, otages, les autres Européens qui sont otages de situation intérieure allemande, j'allais dire, on est otage de toutes les situations intérieures. Je pense que d'autres pays, et d'ailleurs c'est ce qu'on peut lire dans la presse allemande, qui observent les propositions françaises et les interprètent avec ce schéma en disant les Français sont déjà entrés en campagne électorale. Donc ça fait partie de notre histoire commune. Moi, j'ai l'impression qu'Angela Merkel, elle a quand même été échaudée par, sa décision logique, parfaitement fondée sur des convictions, sur une éthique, d'accueillir les réfugiés, c'est-à-dire de ne pas laisser soit mourir dans la Méditerranée, soit s'arrêter sur un barbelé à la frontière de l'Europe. Mais elle a quand même été un peu échaudée, parce que c'était une des rares fois où elle a pris cette décision comme ça, du fond du cœur et avec un peu de précipitation. Ça lui a été reproché, et je crois que son attentisme aujourd'hui dans le Brexit est aussi une leçon qu'elle tire peut-être de cela en disant « Ouh là là, il faut peut-être prendre le temps ». Je pense aussi que ce qui est important, on revient à la politique intérieure, mais ça c'est quelque chose qui est commun à tous les pays, puisque l'Allemagne s'est normalisée, si je peux mettre trois guillemets de chaque côté, avec l'apparition d'un parti populiste d'un parti qui organise les idées populistes en Allemagne.
Donc en l'occurrence c'est AFD, qui a été créé en 2013.
Voilà, qui a été créé en 2013. Qui a été créé en 2013 contre l'euro et contre l'Europe, qui était un parti plutôt de classe supérieure et qui a sauté sur l'occasion de la crise des migrants pour développer la xénophobie. Et je pense que du point de vue de Mme Merkel, il ne faut pas laisser à ce parti la possibilité de dire tout et n'importe quoi sur la sortie rapide de l'Europe et d'insister sur le temps raisonnable de la politique, qui est une chose à laquelle les Allemands tiennent. C'est-à-dire, on ne se précipite pas, on est raisonnable, on est cohérent.
Maximo.
Oui, il y a quand même, au-delà de ça, il y a une question quand même essentielle, c'est que les Français ont un rapport très ambivalent avec le possible départ de la Grande-Bretagne, de joie mauvais, Schadenfreude. Bon, ben voilà, d'abord, d'un coup, on devient la deuxième économie de l'Union européenne et pas seulement de la zone euro. Avant, c'était les Britanniques, les seconds. On devient même la cinquième économie mondiale. La livre s'effondre. Donc, alors que les Allemands
ont très très peur d'un face-à-face avec la France, peut-être l'Italie dedans, mais disons d'une Europe plus latine, plus centrée sur la solidarité, plus centrée sur l'investissement public et d'une économie moins libérale. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, les inquiète profondément.
Quoi, vous voulez dire que la France et l'Allemagne n'ont pas les mêmes objectifs ?
En économie, on le sait.
Ah bon ?
Voilà. Mais donc, l'Allemagne, même historiquement, avant même la construction européenne, même en 1914, l'Allemagne n'avait pas envie de faire la guerre à la Grande-Bretagne. À la France, oui, mais à la Grande-Bretagne, non. Voilà. Mais donc, il y a quand même une espèce de fascination à distance entre les deux pays. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, l'Allemagne est très, très inquiète de cette Europe déséquilibrée avec le départ des Britanniques. Et d'ailleurs, à l'époque où De Gaulle bloquait la Grande-Bretagne, l'Allemagne a été quand même à chaque fois pour qu'elle vienne.
L'Allemagne est très inquiète.
Et de la Croix, l'historienne.
De cela, mais est très déçue. Parce que, en effet, c'est l'Allemagne qui a poussé, qui a aidé la Grande-Bretagne à entrer dans le marché commun après que l'Angleterre avait. La conférence de Messine et le traité de Rome avait refusé d'y pénétrer. C'est le chancelier Brandt qui avait absolument tout fait pour avoir la Grande-Bretagne, pour des raisons tout à fait compréhensible, et celle que vous venez de souligner, qui est il vaut mieux être trois grands plutôt que deux grands en face à face. Et c'est d'autant plus décevant pour l'Allemagne aujourd'hui de voir la Grande-Bretagne partir après avoir, au cours des années, on se souvient de Madame Thatcher, détricoté les quelques liens qui avaient été mis en place pour en tirer le meilleur pour soi. Et c'est là que je ne sais pas comment va réagir l'opinion allemande. Il est clair qu'en Allemagne, il n'est pas question d'envisager un Brexit à l'allemande, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, et le jugement est assez négatif. Mais globalement, c'est vraiment du mauvais comportement vu d'Allemagne. Prendre le meilleur, elle a utilisé dans son discours devant le Bundestag l'image d'aller piquer les raisins dans le cake. Vous voyez, on prend le cake aux raisins et aux fruits, et puis on prend juste ce qui convient et on laisse le reste aux autres. Et ça, pas très très plaisant.
Bastien Nivet,
je ne sais pas si nous nous rendons compte de l'inversion du rapport de l'Allemagne à l'Europe et de l'Europe à l'Allemagne qui se produit. Si l'on revient sur le traité de Maastricht, par exemple, notamment du point de vue français, la stratégie française dans Maastricht, c'était d'assurer l'ancrage européen de l'Allemagne. On avait peur d'une Allemagne réunifiée. On voulait absolument que, sur les questions de politique étrangère, sur les questions monétaires, économiques, l'Allemagne ne fasse pas... ne choisissent pas sa propre trajectoire et ne recouvrent pas une puissance qui faisait encore peur aux Français. Et donc finalement, l'Union européenne telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui a été instaurée par le traité de Maastricht en 1993, c'était en partie une tentative d'assurer l'ancrage européen de l'Allemagne. Et, l'euro en est le symbole, qui est une construction beaucoup plus politique qu'économique. C'était d'assurer définitivement l'ancrage européen de l'Allemagne. Aujourd'hui, l'Allemagne se retrouve dans une situation où finalement, elle a joué le jeu de cette Union européenne, elle a abandonné le Deutsche Mark, elle s'est lancée dans l'euro malgré quelques réticences initiales, et elle regarde autour d'elle et elle voit les rats quitter le navire, si vous voulez, et elle voit cette Europe se déliter autour d'elle. La France lui fait peur, la montée du Front National inquiète en Allemagne, la poussée des populistes, des partis xénophobes et anti-européens en Autriche et ailleurs inquiète aussi en Allemagne, et finalement cette Allemagne que les Européens ont tout fait pour ancrer dans l'Union européenne, elle a tellement joué le jeu qu'aujourd'hui elle regarde autour d'elle une Europe qui est en train de se déliter, et à mon avis là il y a une vraie inquiétude, je pense, de l'Allemagne. Et peut-être que l'on néglige un petit peu de Paris ou de Bruxelles, cette inquiétude allemande vis-à-vis de l'Union européenne, sur laquelle finalement l'Allemagne a quand même beaucoup misé dans sa stratégie post-guerre froide.
Vous parlez beaucoup d'inquiétude, et effectivement, il y en a de l'inquiétude, et notamment celle que vous mentionniez, Marc, c'est-à-dire cette inquiétude de l'Allemagne de se retrouver seule, d'une certaine manière, dans cette crise, et seule en particulier en confrontation avec la France. Et en même temps, on se demande si la relance du projet européen peut se faire autrement qu'autour de ce moteur franco-allemand. On a bien vu, effectivement, cette réunion à trois pour bien montrer que, alors, on ne va pas régler cette crise seulement à deux, nous sommes 27, et Merkel et Hollande l'ont bien précisé, mais en même temps, cette relance, elle va se faire via ce moteur franco-allemand, non, Hélène Mire de la Croix ?
Si, enfin, je l'espère. Je n'aime pas parler ni d'avenir, parce que c'est plutôt spécialiste du passé et du présent, mais, et je n'aime pas donner non plus beaucoup mes opinions, mais là, je l'espère, mais pas en tête-à-tête. Vous savez, le moteur franco-allemand, il a fonctionné à plusieurs occasions dans l'histoire de l'après-guerre et en particulier de la construction européenne. Mais il a fonctionné aussi en emmenant les autres. Je pense que la séquence, le tête-à-tête Steinmeier-Hérault, puis le lendemain qui se retrouve à 6 des fondateurs, même si ça a été critiqué par la chancelière qui a dit il faut pas vexer les autres, il faut être à 27, etc. C'est quand même un signal un peu donné, et il ne faut pas oublier que même si dans d'autres pays, ça on le connaît depuis dans toute l'histoire de la construction européenne, d'autres ont pu froncer le front en disant les Français et les Allemands qui se croient les dirigeants, à chaque fois qu'il y a eu des initiatives franco-allemandes, et il y en a eu plusieurs dans l'histoire, elles ont été saluées et ils ont emmené les autres. Donc je pense que là, il faudrait qu'il y ait un moteur avec ceux qui veulent faire.
Et comment est-ce qu'on pourrait s'entendre ? On a bien compris, les objectifs, et notamment en matière économique, ne sont pas les mêmes. Quelles sont finalement les concessions réciproques que pourraient faire Paris et Berlin ?
Mais justement, alors ça, je ne sais pas si je suis capable de répondre à cette question-là, mais par contre, on oublie souvent que si le franco-allemand a un intérêt dans l'Union européenne, ce n'est pas parce que les deux pays ont les mêmes intérêts et pensent de la même façon, c'est justement parce qu'ils ont des intérêts divergents, des visions différentes, des rapports différents à l'intégration régionale, pardon, au fédéralisme, etc., qu'à certains moments de l'histoire de la construction européenne, si et lorsque que les deux États se mettaient d'accord, alors ça pouvait permettre un compromis plus large. On aurait tort d'inverser un peu la compréhension des choses en pensant que les Français et les Allemands sont d'accord. Non, justement, c'est pas les mêmes trajectoires historiques, c'est pas les mêmes visions économiques, c'est pas le même rapport au fédéralisme et à la construction européenne. Donc, c'est ce qui fait aussi l'intérêt du franco-allemand. C'est pas parce que les deux pays sont d'accord, c'est justement parce que des compromis entre ces deux pays peuvent éventuellement être acceptables par d'autres. Et puis sur le franco-allemand, faut pas oublier que effectivement, ça a été dit par Hélène, un consensus franco-allemand est indispensable, mais il n'est pas suffisant. Donc effectivement, il ne peut pas y avoir de grands projets européens ou de relance européenne sans qu'au moins ces deux États soient cohérents.
Ça
mais par contre,
ça.
La pire erreur diplomatique serait de considérer que c'est autosuffisant et qu'il suffit d'une déclaration franco-allemande.
Mais vous êtes d'accord pour dire que ça commence par ça ?
Je pense qu'il faut faire très attention dans le contexte actuel à embarquer l'Europe du Sud, qui a ses propres défis, ses propres contextes économiques et sociaux, et faire aussi très attention, du point de vue français notamment, à pas oublier l'Europe centrale et orientale, qui connaît de vives poussées populistes, et auxquelles il faut faire très très attention à l'heure actuelle.
Marc Sémo.
Oui, ce qui est très frappant, c'est qu'on sent en France une espèce de nostalgie, et si on revenait au 6 ? En plus, une Europe qui parlait français, maintenant que les Anglais sont dehors.
Ils en ont beaucoup entendu.
Et en revanche, ce qui est très frappant, c'est que depuis le début de la crise du Brexit, après le vote britannique, Angela Merkel rappelle il faut y aller à 27. Elle n'arrête pas de répéter ça. C'est-à-dire surtout pas, même pas jouer simple, pas jouer la chose au niveau d'une majeure intégration dans la zone euro et dans la zone euro. C'est les 27. N'exclure
mais Hollande personne. Aussi. Hollande aussi. D'une certaine manière, il a des alliés aussi.
C'est beaucoup plus rhétorique. C'est beaucoup plus rhétorique. L'Allemagne a cette conscience qu'il faut rester à 27.
L'Allemagne, attention, Madame Merkel. Non, c'est là que je réinsiste sur ce point.
Il y a d'autres voix.
Le ministre de la Justice, qui est SPD, Heiko Maas, a dit il faut absolument qu'on avance, qu'on aille vite, qu'on affronte le problème des populistes, qu'on le parle, qu'on le mette sur la table, et y compris dans les pays compliqués comme sont devenus la Pologne. Donc, alors après, je ne sais pas, mais c'est là que dans quelques années, on aura les archives, on pourra voir un peu plus de choses. Il est possible aussi qu'il y ait un accord parfaitement tacite entre on avance des projets à deux, à six, à ceux qui le voudront, et dans le discours, on insiste, et dans l'organisation, pour que les 27 soient là. Parce qu'il y a, en Allemagne, on parlait de nombreuses inquiétudes, je parlerai au moins de craintes, il est extrêmement désagréable pour l'Allemagne de voir l'évolution qu'a prise la Pologne. Et c'est un grand pays, c'est le voisin immédiat, et je pense que Mme Merkel aimerait bien profiter de cette occasion pour ramener la Pologne dans le giron.
Et par ailleurs, elle l'a mentionné, justement, Bundestag, la Pologne, hein, vous avez raison de le dire. Bastien Ivet, en quelques mots, on est à la fin de l'émission.
Oui, très rapidement, je crois qu'il faut rappeler aussi que finalement, ce qu'on reproche à Angela Merkel, c'est un exercice de gestion de crise. Finalement, depuis 2008, entre la succession, entre la crise financière, la crise économique, la crise sociale, la question des réfugiés, en permanence, les concertations entre Européens ont été des concertations et des décisions dans l'urgence. Et ce n'est pas forcément propice à des compromis porteurs à long terme, malheureusement.
Na petit pays.
Petit pays, c'est Afrotronic, c'est un groupe, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un musicien tchadien qu'on aime beaucoup, qu'on a diffusé il n'y a pas très longtemps dans cette émission, puisque c'était hier en fait. Mais on a beaucoup aimé, alors on a eu envie de le remettre pour cette dernière émission de cette sixième saison de Culture Monde. Merci beaucoup d'abord à nos invités d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle Hélène Miard de la Croix, historienne, professeure à l'Université Paris 4, Sorbonne, Bastien Nivet, professeur associé au pôle universitaire Léonard de Vinci et chercheur à l'IRIS. Merci beaucoup d'avoir été présent pour cette dernière de Culture Monde de cette sixième saison. Un grand merci évidemment à vous, Marc Semo. Vous continuerez l'année prochaine à nous accompagner, bien sûr. Et puis un grand merci surtout à toute l'équipe de Culture Monde qui, tout au long de cette année, a fait preuve évidemment d'un engagement sans faille pour préparer, pour penser toutes ces émissions qui, nous l'espérons, vous ont intéressé. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter, donc on peut penser que c'est le cas. Et même si, bien sûr, les chiffres d'audience ne doivent pas tout conduire dans la vie, en particulier dans la vie d'une radio, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils nous galvanisent pour poursuivre nos efforts, continuer à travailler, bien sûr, sans compter. Merci beaucoup donc à eux, Xavier Martinet, Tiffaine Dorocchini, Clémence Alézard, mais aussi Charles Le Gargasson, Perret Legras, sans oublier bien sûr tous les techniciens, Bruno Gagnard Fontani aujourd'hui. Rendez-vous l'année prochaine pour une septième saison. Très bel été, très belle journée sur France Culture. Rendez-vous fin août, début septembre. Bel été.
Une balade à pêcher, vous m'avez toujours fait rêver. Et ça a la noblesse, et derrière la sagesse.